Asmades France. Mais avant de commencer, je voulais remercier Sophie Bergeronneau de l'organisation de ces journées, qui est secrétaire de l'école doctorale et qui a fait un travail formidable. Vous voyez, c'est aussi grâce à elle et à Boniface que vous êtes là, mais je tenais à la saluer et la remercier. Donc nous allons accueillir M. Fabrice Pirot, qui vient depuis la quatrième fois à l'Espace Mendès France.
Il me semble bien, oui.
Voilà. Donc merci beaucoup Fabrice d'être là aujourd'hui et d'être venu de Lyon pour nous parler des cosmétiques, de la façon dont les cosmétiques se nanodispersent. Donc vous êtes maître de conférence des universités, praticien hospitalier des hospices civils de Lyon, groupement hospitalier Édouard-Henri Herriot. J'ai tout dit.
Alors, grâce à vous, Anne, oui. En fait, j'ai sauté d'échelon. Je suis passé professeur.
Ah ouais, mais c'est grâce à vous. Ah, c'est génial, ça. C'est grâce à l'Espace Mendès France. Ça commence bien. Donc, on est toujours ravis que vous soyez là, Fabrice, merci. Et on vous écoute avec plaisir. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, Anne. Merci pour l'invitation. C'est toujours très agréable de venir dans cette bonne ville de Poitiers. Je suis effectivement professeur des universités en technologie pharmaceutique et biopharmacie. Et par ailleurs, j'ai quelques responsabilités dans une unité de préparation et de contrôle de médicaments à l'hôpital. Et nous avons quelques effectivement demandes sur des médicaments de thérapie innovante faisant appel à des nano, disons, technologies. Alors, je ne connais pas bien l'auditoire, donc je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse. Y a-t-il des biologistes parmi vous ? En tête, oui, des biologistes. Il y a des physiciens ? Très bien. Et il y a des juristes et des sciences humaines. Très bien. C'est un auditoire donc très éclectique. Et donc, c'est un exercice particulièrement difficile, puisque ce que je vais dire ne conviendra pas nécessairement aux biologistes ni aux physiciens. Et pour les sciences sociales, en revanche, nous aurons peut-être des débats intéressants. Je me souviens que le premier débat fut fort animé avec une personne qui était dans l'assistance. Moi, j'aurais rêvé recevoir des confettis comme en avons reçu les experts. On en a discuté avec certains des thésards qui étaient là. Je pense qu'une des attitudes aussi aurait été peut-être de les présenter eux en premier, leur message, et ensuite de répondre. Mais l'attitude magistrale qui consiste à rester derrière le pupitre et à ne rien dire ne me semble pas être la bonne attitude. Je pense qu'il faut peut-être leur laisser la parole. Et ensuite, débattre scientifiquement. Tout à l'heure, j'ai été amené à faire trois expériences de nanotechnologie, à savoir, moi, je porte des verres qui sont photosensibles à l'argent. J'en éprouve un fort confort. Par ailleurs, j'ai fumé une cigarette, donc j'ai généré un certain nombre de nanoparticules. Il est d'ailleurs tout à fait possible de connaître la taille de ces nanoparticules lorsque l'on fume. La lumière la fumée était de couleur bleue, donc pour les physiciens, ça va tout de suite leur parler. La taille était aux alentours de... Oui, voilà, c'est ça, 400 nanomètres, parce que le temps était très clair, et surtout, il y avait peu d'humidité. Mais lorsque j'ai exhalé... la fumée, elle est devenue de couleur blanche, donc taille beaucoup plus importante compte tenu de l'hydratation des nanos. Par ailleurs, nous sommes en pleine épidémie de pollen. Or, ce pollen, lui aussi, a une taille qui est proche du nanomètre, à savoir que certaines sociétés, je crois une ou deux sociétés, se sont intéressées à ça en se disant, bah tiens, ça c'est intéressant. J'ai une source naturelle de nano. Je vais éliminer l'allergène qui se trouve à l'intérieur de la capside et le remplir par un principe actif. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Justement, c'est nos collègues canadiens qui ont monté ce genre de société. Alors, toute la question qui avait d'ailleurs été soulevée par le conférencier précédent, c'est de se dire, mais si j'établis une analyse de risque dans la préparation, soit de mon cosmétique, soit de mon médicament, il y a, mon collègue en a cité deux. Il a cité ces dangers et exposition. Nous ajoutons un, multiplions par un troisième facteur, parce que c'est une multiplication, hein, ce n'est pas une somme. Nous ajoutons un troisième facteur qui est la détectabilité. De savoir, est-ce qu'on est en mesure de détecter dans le corps humain la présence de cette nanoparticule. Et je crois que ça, c'est un point capital. Et les techniques usuelles, eh bien, ne sont pas encore suffisamment fines pour mettre en évidence la plupart du temps ces nanoparticules au sein d'un organisme. On verra quelques exemples très séduisants, mais qui concernent la peau. Bon, moi, j'ai l'habitude, je travaille sur la peau depuis plus de 25 ans. Et bon, je fais donc un travail qui est très superficiel, hein, puisque la peau est un organe superficiel par nature, le tégument. Alors, il y a un certain nombre d'ouvrages que je vous ai listés. On a collaboré dans Nanothérapeutique, qui est relatif à toutes les applications selon les voies d'administration, qui est un plan assez classique, et l'utilisation selon les différentes voies d'administration de ces nanos. Et un de nos plus éminents collègues, qui est directeur de l'Institut Polytechnique à Zurich, a publié un article tout à fait remarquable qui s'appelle « Journey of Nanoparticles into the Body ». Donc il détaille la manière dont vient se promener une nanoparticule au sein de tout l'organisme et de tous les organes. Vraiment, article, si vous le souhaitez, que je vous enverrai, tout à fait remarquable. Ensuite, il y a un ouvrage qui est Nanotechnology in Dermatology, donc là qui cible plus évidemment toutes les dermatoses les plus usuelles, qui va de l'eczéma atopique, psoriasis, j'en passe, et des pires. Mais il y a un champ qui est intéressant dans cette nanotechnology in dermatologie, c'est l'application de patch, de systèmes transdermiques intelligents, qui font appel eux aussi à des systèmes de nanotechnologie et qui permettent de renseigner, de prendre un certain nombre de mesures illico, enfin in silico d'une certaine manière, sans mauvais jeu de mots, et de renvoyer au patient sur une montre. Bon, moi j'ai une montre qui vaut ce qu'elle vaut, enfin je paye déjà assez cher, hein, qui me renseigne sur mon rythme cardiaque qui a considérablement augmenté depuis que je vous parle et qui est capable dans quelques années, de renvoyer un message d'alerte à mon médecin, et voire même à un service d'urgence. Et pourquoi les grandes sociétés comme Orange s'intéressent considérablement à ça ? Eh bien, parce qu'il y a un fort potentiel. Il y a un fort potentiel parce qu'on n'est plus en mesure de garder aussi longtemps les patients à l'hôpital. Ça coûte très cher. Les hôpitaux accueille en France un excès de 2 journées par rapport au reste de l'Europe. Donc il faut renvoyer les patients chez eux, mais il faut également que les patients puissent être suivis. Donc il faut des systèmes finalement d'informations qui sont envoyés aux médecins ou dans des services pour pouvoir les reprendre. Alors il y a des... Bon, les Japonais sont très forts en la matière. On est capable de prendre une température, ma montre le fait aussi, La température, un électrocardiogramme, vraisemblablement on va avoir accès à certaines données au niveau de l'encéphale. Et puis si je suis diabétique, eh bien, je vais avoir une détection du glucose à la surface de la peau, donc c'est ce qu'on appelle une glucowatch. Cette détection se fait par iontophorèse cutanée, je détecte le glucose, si mon glucose est trop élevé, pof, je vais avoir un petit réservoir qui va m'envoyer ma dose d'insuline. Donc il y a quand même un progrès conséquent là-dedans. Alors ensuite, beaucoup plus, je dirais, trivial, c'est nanocosmétique and nanomédecine. Donc nanocosmétique, je vais vous montrer les grandes orientations. Et nanomédecine, j'en parlerai pas vraiment, sauf je ferai un petit encart sur l'utilisation de quantum dot. Tout à l'heure, on parlait des médecins, et moi je suis pharmacien. La grande différence entre les médecins et les pharmaciens, c'est que le médecin, il a une obligation de moyens. C'est-à-dire, il vous dit, Ben oui, vous avez une primo-infection au HIV. Mais il n'a pas une obligation de résultat. Il ne va pas vous dire, je vais vous guérir du sida ou de votre infection. En revanche, nous les pharmaciens, nous avons une obligation de résultat. À savoir, nous devons donner, dispenser le bon médicament ou fabriquer le bon médicament. Et ça, c'est une énorme différence. Et je crois que là, l'incompréhension vient aussi un petit peu de là. Pour ce qui est de l'information qui est donnée aux médecins, voire même nous, lorsque nous donnons une information à des patients, on donne une information. Mais comment s'assurer qu'elle a été comprise ? C'est toute la difficulté. C'est bien beau de donner l'information. Moi, j'ai 50 ans, vous en avez 20 ans, vous avez 25 ans. Je m'exprime avec un certain vocabulaire. Je ne m'exprime pas comme quelqu'un qui en a 70. Et donc, pour savoir si vous avez bien compris, si je me suis exprimé de manière intelligible pour tout le monde, ce n'est pas évident. Si après, on fait un système de QCM sur un certain nombre d'informations que j'ai pu donner, je suis sûr que ce n'est pas ce que j'aurais voulu dire. Mais c'est tellement classique. Quand vous êtes en réunion, même avec votre propre groupe, vous donnez un certain nombre d'informations. 10 minutes après, une fois que tout le monde va prendre la pause, « Ah, il a dit ça, le chef, mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah oui, mais nous, c'est comme ça qu'on l'a compris. » Donc, le traitement, de pouvoir avoir des moyens d'évaluation sur l'information qui a été donnée, là aussi, c'est compliqué. De toute façon, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu ce débat. Bon, les débats, c'est toujours intéressant, même s'ils sont vifs, pour peut-être éviter que nous passions les uns et les autres pour un docteur Follamour, là, qui est en bas, c'est peut-être Frankenstein, je ne sais plus très bien, enfin, un de ces deux-là. Alors, pour ce qui est du monde visible, en termes de taille, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il y a donc un monde visible et puis ensuite il y a un monde micronique. Là, on a une illustration avec des hématies qui peut être observée avec un microscope optique traditionnel. Et puis ensuite, on est sur un monde submicronique, un peu comme sous-marin, donc en dessous du micron. Et dans ce monde, eh bien, on va devoir utiliser pour une mise en évidence eh bien, des instruments aussi sophistiqués que des microscopes électroniques. Alors, pour vous qui avez 25 ans, vous êtes en capacité de voir l'épaisseur d'un cheveu, hein, c'est-à-dire 100 micromètres. Mais vous êtes capable de voir même un peu plus bas. Là, on a un cercle de 10 cm, là, un cercle d'un centimètre. Là, ça doit faire 1 mm. Et puis, voilà, on arrive ici à 100 micromètres. Mais si l'objet est brillant, c'est-à-dire s'il renvoie la lumière, 50 micromètres, c'est encore discernable. Alors ça, c'est un test que nous réalisons la plupart du temps sur nos opérateurs qui vont réaliser ce qu'on appelle un mirage. C'est-à-dire un mirage, je prends une bouteille ici, il y a un liquide à l'intérieur, et puis je vais passer devant une lumière, comme ceci, et puis je vais essayer de détecter s'il y a des particules en suspension. S'il y a des particules en suspension, je vais être obligé, surtout si le produit est destiné à être injecté en intraveineux, je vais devoir éliminer le produit. Donc ça, c'est vraiment le premier test de mirage. Mais après, bien entendu, je vais être tenu d'utiliser des compteurs particulaires qui sont en mesure de me dire quel est le nombre de particules disons comprises entre 25 micromètres et 5 micromètres sont présents. Car si j'ai des particules qui sont de taille micrométrique trop importante, si j'injecte en IV, je vais éliciter un bolus et donc un risque d'embole pour le patient. Alors, en dessous ce monde, je dirais, visible, eh bien, il y a notre monde submicrométrique. Et dans ce monde-là, eh bien, un certain nombre de composés présentent des propriétés thérapeutiques qui sont différentes de celles qu'elles ont dans le monde visible. Alors ça, c'est tout à fait surprenant. Par exemple, si vous prenez du nitrate d'argent, ce nitrate d'argent, lorsqu'il est en solution, il a des propriétés disons, antiseptiques qui sont assez marquées. En revanche, si vous le présentez sous forme de nanoparticules, on va dire plutôt sous forme colloïdale, donc colloïdale, ça vient du mot grec, colloïdale parce que ça colle, eh bien, ces capacités antiseptiques sont extrêmement majorées. Donc ça, c'est pour l'effet, disons, antiseptique sur la peau. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, le soufre, si vous prenez du soufre dans ce monde visible, là, vous l'avalez, ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, vous n'allez pas l'absorber. En revanche, si vous réduisez sa taille pour vous retrouver ici, dans ce monde invisible, eh bien, il va pouvoir être absorbé au niveau de l'intestin et s'incorporer dans les fanères, les ongles et les cheveux, ce qui va, disons, améliorer la qualité pour le patient qui présente un certain nombre de dermatoses. Alors ici, vous avez un système de fioles, vous voyez ici, avec différentes couleurs. Et dans ces fioles, eh bien, il y a des petites particules de taille différente. Et ces particules sont toutes illuminées avec la même irradiation UV, c'est la même longueur d'onde. Mais compte tenu que la taille des particules est différente, eh bien, la fluorescence est de couleur différente. Alors, les tailles de ces petites particules sont plus importantes dans le rouge qu'elles ne le sont dans le bleu. Alors, par ailleurs, hein, ce système de nanoparticules est connu depuis très très longtemps. L'argent, notamment, a été très utilisé par les Grecs, notamment, puisqu'ils avaient des pièces d'argent, ils les mettaient dans le vin pour préserver le vin. La même chose un petit peu avec les pièces de cuivre qu'on mettait autrefois dans l'aquarium. Là, je ne sais pas si c'est une question de... le cuivre devient soluble ou pas, mais enfin, c'est quelque chose de très connu. Là, ici, dans les vitraux, donc c'était un secret français qui a été au Moyen-Âge préservé très longtemps, on a des pigments, un certain nombre de pigments qui étaient également sur les habits royaux et qui permettent d'obtenir cette couleur bleue très intense. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde soit très familiarisé avec la barrière cutanée. Donc, je vais vous présenter un petit film. Donc, je vous rappelle que la peau est l'organe humain, je ne veux pas faire court, mais enfin, qui est l'organe humain le plus étendu et le plus lourd. Il pèse à peu près aux alentours de 4 kilos. Et là, nous, on va partir de la surface de la peau. Vous voyez, donc ici on a la main. C'est fantastique YouTube, hein, on arrive à avoir un tas de trucs. Hein. Donc ici on se rapproche et on voit très nettement un relief ici avec un système de sillons primaires et un système de sillons secondaires. C'est ce qu'on appelle une anisotropie. À votre avis, est-ce que cette anisotropie, elle est plus marquée chez vous ou chez moi ? Non, mais ils ont 25 ans, j'en ai le double. À votre avis, est-ce que cette anisotropie, le fait qu'il y ait autant de sillons primaires que secondaires, est plus marquée chez vous ou chez moi ? Chez ? Non, chez vous. Elle est plus marquée chez vous, c'est-à-dire que vous avez autant de sillons primaires que de sillons secondaires, ce qui marque, disons, l'absence de rides. Au fur et à mesure que l'on vieillit, en fait, ces sillons primaires se creusent et on a un système de vallées beaucoup plus prononcé que de plateaux. Alors ça peut paraître un point de détail, hein, mais ça va avoir une énorme importance sur la manière dont va venir s'étaler votre produit cosmétique. Et on verra un petit peu juste après dans quelle mesure ça peut aussi avoir une influence sur l'effraction de la barrière cutanée et la possibilité à ce moment-là d'une introduction de nanoparticules ou d'agents pathogènes plus en profondeur. Alors on continue le voyage. Alors on voit un certain nombre de... Bon, il y a quelques débris, hein, qui sont dus en fait à des squames de la couche cornée. Et puis là, on trouve ce petit objet. S'il veut bien s'arrêter, hop, on va le remettre. Non, pardon. Pardon. Voilà, à peu près ici. On va le laisser redérouler. Voilà, très bien. Et là, on a On a une goutte d'eau qui se trouve peut-être vraisemblablement de la sœur, ça perle un petit peu. Ici, on a une goutte d'eau, et cette goutte d'eau, eh bien, elle est sphérique. C'est une goutte, elle est sphérique. Pourquoi est-elle sphérique? Pourquoi elle ne s'étale pas à la surface de la peau? À cause, effectivement, d'un film lipidique qui est sécrété à la surface de la peau, donc un film de sébum, qui a également un certain nombre de propriétés presque tensioactives qui nous protègent. Alors, mon ancien chef avait l'habitude de dire que c'était le premier savon que l'homme, finalement, a pu synthétiser de lui-même. Alors, si je suis amené à dégraisser la surface de la peau, hein, mesdames, si vous prenez un démaquillant à l'acétone, vous pouvez faire la manip chez vous, vous le passez à la surface de la peau, vous mettez une goutte d'eau, vous allez voir, la goutte d'eau, eh bien, elle va s'étaler totalement à la surface cutanée. On vient donc d'éliminer ce gras, si vous voulez, ce qui en lui-même constitue déjà une effraction de la barrière cutanée avec une possibilité, disons, de pénétration de molécules, soit thérapeutiques, soit exogènes. Mais on est toujours sur quelque chose de, disons, très fermé, très cohérent. Donc là, on poursuit l'agrandissement. Là, ici, entre les cellules, on voit très nettement cette espèce de film de sébum qui englue finalement la surface de la peau. Là, ici, nous avons un poil qui émerge d'un orifice pilo-sébacé. Et on va s'insinuer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus précisément, entre les cellules de la couche cornée, qui sont donc des cellules mortes, remplies de kératine amorphe. Donc on se rapproche, et vous allez voir qu'il y a une structure qui est d'une très grande beauté, qui est unique dans l'organisme humain, et qui finalement assure notre survie à la surface de la Terre, chose qui est différente chez les mammifères marins. Comme vous le savez, le retour des mammifères dans leur environnement aqueux a une physiologie extrêmement particulière, donc je n'aborderai pas cette partie-là, quoique c'est vraiment tout à fait passionnant. Donc on se rapproche, là on a les membranes plasmiques des cornéocytes. On va se rapprocher encore, encore, encore. On va être pas loin de 25 000 et je vais essayer de stopper. Et vous allez voir quelque chose de tout à fait remarquable. C'est cette bande, ce sont ces lamelles ici. Voilà. Pétard. C'est vraiment pas de chance, évidemment. Évidemment, évidemment. Voilà, si j'y suis, très bien. Ici, vous avez les membranes cellulaires, et à l'intérieur de cette membrane, vous avez un système de lipides qui se superposent. Ces lipides, eh bien, assurent, notamment un céramide, assure une sorte de rivet moléculaire pour toute la structure, ici. Donc on a la partie polaire du lipide, apolaire, polaire, etc., etc. Et on a un système d'empilement. Cette structure contient du cholestérol, des céramides et un certain nombre d'acides gras, mais à la différence de toutes les autres, disons, membranes biologiques, est exempte de phospholipides. Si par un traitement à l'acétone, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'applique à la surface de la peau, toute cette structure va fluctuer et va être éliminée. De sorte que l'effet barrière de la peau s'en trouve extrêmement altéré et va déjà constituer en lui-même une voie de passage pour des molécules actives, mais peut-être également pour des nanoparticules. Alors ce phénomène-là, vous le vivez tous les jours. Hein, tous les jours. Là, ici, on est dans une atmosphère, il fait assez chaud. Hein, il fait assez chaud, je dirais qu'on est dans 60% d'humidité. Mais si vous prenez un bain, si le bain il est assez chaud, au bout de quelques minutes, quand vous sortez du bain, vous allez pouvoir observer à l'extrémité de vos doigts, de vos phalanges, un aspect en prune, fripé. Fripé. C'est-à-dire que vos lipides ont été éliminés et vous n'avez pas absorbé de l'eau. Non, vous avez perdu de l'eau. Vous avez perdu l'eau qui est endogène à l'intérieur de votre corps. C'est tout le paradoxe de l'hydratation cutanée. Pour hydrater sa peau, il ne faut pas mettre d'eau. Non, il faut mettre du gras. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire, c'est toute la... Ici, on est en train de perdre aux alentours de 15 grammes par mètre carré et par heure. En gros, vous allez perdre 400 millilitres dans la journée. Alors, donc là, on a vu, on était vraiment très superficiel, entre notre couche cornée. Mais je voudrais attirer votre attention. On va aller un tout petit peu en profondeur. Et vous allez me dire ce que vous pensez de cette... ici, on a la structure de la peau. Donc là, on se retrouve avec notre couche cornée, avec l'épiderme vivant dans sa couche basale. Et puis ensuite, on se trouve dans le derme. Vous voyez qu'il y a un facteur de 1 à 10. Hein. L'épiderme, c'est 100 micromètres. Et puis aussi, on arrive à 1 mm, 1 à 2 mm. Et on observe quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est des anastomoses entre les artères et les veines. Hein, le derme est vascularisé. Et d'ailleurs, quand vous regardez ici, vous avez une vascularisation qui est parallèle à la surface. Tout ça, c'est pas fait pour rien. À votre avis, pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Quelqu'un sait ? On en reparlera un tout petit peu après. Pourquoi c'est parallèle à la surface et non pas dans ce sens-là ? Eh bien, parce que l'homme est un prédateur, pratiquement un des plus aguerris à la chasse. C'est-à-dire qu'il est en mesure de traquer des animaux sur 20 km. Pour un homme, ce n'est pas un problème de traquer un animal. Surtout si on s'y met à trois, on va le traquer pendant 5 km, l'autre prend le relais, etc., etc. Et pourquoi il est en mesure de faire ça ? Parce qu'on transpire. Et le fait de placer la vascularisation parallèlement à la surface va permettre d'éliminer énormément de chaleur. Et les animaux ne sont pas en capacité de le faire. Donc l'animal, au bout d'un moment, il va s'arrêter pour pouvoir se rafraîchir. Il n'y aura plus qu'à le cueillir et le tuer. Alors évidemment, pour faire ça, je vais courir. Hein. Je vais courir. Et dans le Rif, hein, dans le Rif africain, beaucoup de coureurs courent pieds nus. Et dans le Rif, vous le verrez tout à l'heure, il y a beaucoup de métaux, notamment zirconium et béryllium, que je vais prendre au niveau de mes pieds. Et comme en plus j'ai une flexion, il y a un massage, j'ai un risque de pénétration très facilité de ces nanos. On va voir après. Alors juste pour vous montrer la manière dont ça se passe, donc là, voici mon écorché, hein, je vous rappelle, pratiquement 2 mètres carrés de peau. Et puis, ma molécule... Si elle est, quand elle est lipophile, elle est jaune. Quand elle est hydrophile, elle est bleue. Eh bien, elle vient s'insinuer entre les cornéocytes, comme ceci. Elle passe dans ma structure lamellaire, comme ceci. Voilà. Et puis, elle va gagner finalement les couches profondes de l'épiderme vivant et peut-être du derme. Mais on a vu un orifice pilo-sébacé. L'orifice pilo-sébacé, il est largement ouvert, lui. Beaucoup plus ici que des structures qui ont l'air quand même très compliquées. On voit que les molécules doivent passer. Dans un follicule pilo-sébacé, j'ai quand même une fenêtre de tir qui va permettre finalement la migration jusque dans le derme. Jusque dans le derme. Je pense que tout le monde a fait l'expérience, peut-être pas, d'une infection dans le dos. Hein, autour d'un poil, centré autour d'un poil, on appelle ça un furoncle. Et notamment, les furoncles, ils sont élicités par le fait que nous restions souvent assis et que l'on frotte le dos contre un siège ou lorsque nous sommes en voiture ou lorsqu'on bricole au sol. Donc là, il y a un phénomène où le poil, disons, s'agite, il laisse ouvert et il y a un certain nombre de bactéries qui peuvent venir s'immiscer. Et le gros danger de cette chose-là, c'est que la bactérie, en fait, elle se trouve isolée et la peau se referme, finalement, se retrouve avec un abcès. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des voies de passage d'un certain nombre, disons, de molécules, d'agents pathogènes, également de nanos. Toute la difficulté, tout à l'heure, elle l'a très bien dit, dans le risque des nanos, si c'était au point de vue cutané, il a parlé de danger, et exposition. Mais il en manque un, c'est la détectabilité. Détectabilité. Nous, on multiplie toujours par la capacité de pouvoir détecter. C'est un produit. C'est-à-dire qu'on multiplie chacun des paramètres. Il est, vous le verrez tout à l'heure, encore assez difficile d'estimer et de visualiser la pénétration de ces nanoparticules au sein de la couche cornée, de l'épiderme et du derme. Bon, ce n'est pas, et je répète, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas les voir que cela n'existe pas, mais leur détectabilité est extrêmement faible. Donc le risque, a priori, est majoré. Alors, dans le champ des cosmétiques, les nanos sont définis comme des particules dont la taille, enfin dont une des dimensions est inférieure à 100 nanomètres. Alors évidemment, il y a beaucoup de nanoparticules qui sont décrites. Alors nous, dans notre champ pharmaceutique, nous on considère tout ce qui est nano en dessous du micromètre. Pas la définition des cosmétiques, entre 1 et 100 nanomètres. Nous, à partir du moment où c'est en dessous du micron, c'est déjà un nano. Alors ici, vous avez une structure qui est très connue, donc les liposomes, avec une bicouche de phospholipides dans lequel je vais pouvoir enchâsser un actif lipophile ou hydrophile. Ce liposome, si je le place à la surface de la peau, eh bien, il va venir fusionner à la surface de la peau. Sa pénétration est assez limitée. Quelque chose de beaucoup plus subtil, c'est ça, c'est l'étosome. L'étosome, au lieu d'avoir de l'eau à l'intérieur de ma structure, j'ai de l'éthanol. Alors comme j'ai de l'éthanol, alors sur le papier, ça n'existe pas, ce n'est pas faisable. Les physiciens vous diraient, ou les chimistes vous diraient, ça, vous ne pouvez pas le faire, parce que l'alcool va venir solubiliser vos phospholipides, vous ne ferez pas une structure. Et bien pourtant, si, ça a été mis en évidence, ça a été breveté, etc. Alors évidemment, l'avantage d'avoir de l'éthanol, c'est qu'on va donner une structure extrêmement flexible et elle va pouvoir s'immiscer à l'intérieur des couches cutanées de manière beaucoup plus importante. Ensuite, les nyosomes, je passe sur celui-là. Les nyosomes, ça, ce sont des structures qui sont faites uniquement de molécules tensioactives ou de détergents. Gros avantage, vous voyez, c'est assez joli à voir, on dirait une croix de Malte. Gros avantage, c'est que ça ne coûte pas grand-chose à faire, les tensioactifs. Vous en avez partout, il y en a, je crois, plus de 20 000 au catalogue. Donc, une grande facilité pour faire. L'avantage aussi, c'est que si j'ai une molécule qui est lipophile, je vais pouvoir l'insérer là-dedans et le disperser dans l'eau. Donc, tous ces produits existent bien entendu déjà. Certains sont déjà en essai clinique. Pour ce qui est des médicaments, bien entendu, je vous rappelle que dans le champ cosmétique, il n'y a pas d'essai clinique. On fait uniquement des essais de tolérance et d'efficacité cutanée sur des listes positives de produits, dont fait partie le dioxyde de titane dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, on tombe sur les nanoémulsions. Alors ça, la nanoémulsion, c'est intéressant. Une émulsion, vous avez du lait. Du lait, c'est une émulsion de lipides dans l'eau. Tout le monde connaît ça. D'ailleurs, quelle est la taille des globules de lait? Quelqu'un sait, grosso modo? Alors, si vous voulez épater vos neveux et nièces, vous allez produire un coucher de soleil dans un verre d'eau. C'est magnifique. Vous prenez un verre d'eau, vous le remplissez avec de l'eau, vous mettez une goutte de lait. Et ensuite, vous prenez votre iPhone et puis vous éclairez à la surface. Et vous verrez que de l'autre côté, vous allez observer une couleur orange. Vous former un coucher de soleil et que lorsque vous êtes au-dessus, 90 degrés, un petit peu de côté, vous observez une magnifique couleur bleue, c'est exactement ce que l'on observe en ce moment et ce qu'on observera ce soir, puisque les nanoparticules qui se trouvent dans l'atmosphère sont aux alentours de cette taille, 400 ou 500 nanomètres. Évidemment, quand il y a des nuages, il y a beaucoup d'humidité, donc la taille augmente et on observe quelque chose de grisé. Ensuite, les nanocapsules polymériques, bon, ça c'est quelque chose que nous développons. Donc la nanocapsule polymérique, il y a un cœur ici, lipophile, et autour, on a un polymère. Alors un polymère qui est soit de grade cosmétique, soit de grade pharmaceutique. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir, dissoudre ou disperser beaucoup de molécules lipophiles. Et ensuite, les nanoparticules lipidiques solides, alors elles sont vraiment dans le pipeline, en termes de recherche, parce que c'est très facile à faire et l'innocuité, elle, en termes d'excipient, voire de la matière qu'on utilise, elle, elle est garantie. Pour vous dire, les nanoparticules lipidiques solides, vous voyez un suppositoire ? Vous voyez un suppositoire ? Oui, il y en a encore. Suppositoire, triglycéride semi-synthétique. En clair, c'est de l'huile de palme que je vais hydrogéner. Donc, pour nous, oui, je sais ce que vous allez dire, mais pour nous, l'innocuité, elle est, disons, garantie parce qu'on n'arrive pas à avoir de peroxydation des lipides, etc. Disons, dans notre partie, on considère que l'innocuité est bonne. Parce que ce que l'on craint toujours, c'est l'absence de stabilité. Après, le devenir, vous allez dire, c'est quand même pas tous les jours qu'on prend un suppositoire. Mais je veux dire, là, dans les services rendus par ces matières premières, où le bénéfice-risque est tellement plus important que d'autres composés. Autrefois, il fallait utiliser du beurre de cacao à formuler. Je ne vous raconte pas la difficulté. Alors là, pour le coup, des matières premières avec des grandes variabilités. Donc ça, nanoparticules lipidiques solides. Alors l'équipe d'Angers est très, très connue mondialement pour ça. Fait ce genre de système, notamment pour l'administration de principes actifs anticancéreux. Alors ensuite, on arrive à quelque chose qui est finalement beaucoup plus délicat. C'est à la fois plus simple et beaucoup plus délicat parce qu'elles vont avoir un temps de persistance dans l'organisme vraisemblablement plus important. Particules inorganiques avec le chef de file. Donc on a vu tout à l'heure, si j'ai bien compris, 14 000 tonnes de dioxyde de titane sur le territoire. L'oxyde de zinc, l'oxyde de cérium, l'or, l'argent, le cuivre, le carbone. Alors, l'or est utilisé sous forme colloïdale depuis de très nombreuses années pour diagnostic de certaines pathologies, notamment parésis. L'argent, on en a déjà parlé avec l'argent colloïdal. Donc, c'est pareil, une action antiseptique très majorée avec cet argent. Inconvénient de l'argent colloïdal, si je le mets sur un pansement, et si je le place, qu'on appelle les pansements hydrocellulaires, si je le place sur un pansement pour une brûlure, parce que ce que l'on craint surtout sur la brûlure, c'est l'infection, c'est qu'à terme, il y ait une coloration perpétuelle du tégument dû à l'argent. Donc c'est une des craintes. Mais vous savez, hein, si vous n'en voyez pas beaucoup, c'est pas parce que ça ne marche pas, c'est pas parce qu'on craint une certaine coloration du tégument. C'est quoi la raison ? Pourquoi on n'en achète pas, nous, dans les hôpitaux ? Parce que c'est très cher. Donc on préfère utiliser de la sulfadiazine, qui est finalement un composé argentique et qui ne coûte rien, on achète en pot de 500 grammes, et ça ne coûte rien, puis on badigeonne les patients. Mais dans l'esprit, c'est exactement la même chose. Ensuite, bon, le cuivre antiseptique classique, je vous passe sur la pommade de Dalibour, sulfater les vignes, ça revient à ça. C'est exactement la même chose. Bon, quant au carbone, nous, on a l'habitude de donner du carbone mais par voie perosse, notamment car c'est le meilleur agent d'adsorption de composés toxiques, alcool, j'en passe, là encore. Mais également, lorsqu'il y a des intoxications volontaires, c'est le meilleur système. On ne fait plus maintenant de lavage gastrique. Lorsque j'étais interne, on faisait encore du lavage gastrique, ça n'existe plus. Donc on va faire adsorber sur ce type de produit. Alors pour ce qui est de l'oxyde de zinc, alors voilà un composé extrêmement intéressant, l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, ça fait vraiment partie des produits que nous utilisons très très régulièrement. Parce que l'oxyde de zinc a des propriétés antiseptiques, a des propriétés cicatrisantes qui ne sont plus à démontrer, mais dont l'activité est dépendante de la taille. Plus vous allez réduire sa taille en termes de particules, plus vous allez vous rapprocher vers dans le monde invisible, plus ces activités sont majorées. Alors évidemment, alors là, il y a un coût à payer. L'oxyde de zinc, lorsque vous l'achetez classiquement pour faire votre pommade, ça ne coûte rien du tout. En revanche, lorsque vous devez réduire sa taille, c'est-à-dire passer ce qu'on appelle des broyeurs colloïdaux, vous multipliez par le prix par 10 ou par 100. Autant dire qu'en travaux pratiques, c'est la première qualité qu'on donne pour nos étudiants, pas celle-là. Alors cet oxyde de zinc, il est... aussi, il y a un gros intérêt, c'est que le zinc est le composé métallique le plus concentré dans la peau que dans tout l'organisme. On est aux alentours du milligramme par gramme. Vous vous rendez compte, milligramme de métaux par gramme de tissu. Vous voyez ce que ça représente, milligramme par gramme. C'est considérable. Si vous ne pouvez pas absorber le zinc, vous faites une une dermatose qui est très particulière et qui se guérit si on vous redonne du zinc en 3 jours. C'est-à-dire que vous êtes dans un état pitoyable, 3 jours après, vous êtes guéri, si on vous redonne du zinc. Donc, l'oxyde de cérium, qui est un antioxydant, et que nous avons utilisé dans nos applications particulières, parce que mixer l'oxyde de zinc à dioxyde de titane va permettre d'avoir une activité anti-UV extrêmement majorée. Donc, on verra. Donc, dioxyde de titane, qui est classiquement utilisé dans toutes les gélules, puisque toutes les gélules qui sont blanches utilisent du dioxyde de titane, qui est vraiment, disons, l'excipient majoritaire pour les gélules. Si on nous interdit le dioxyde de titane, je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Alors ici, vous avez un exemple de nanocosmétique renfermant un certain nombre de produits. Donc là, on en l'a dit, du zinc, l'oxyde de zinc micronisé. Alors ici, on a des fullerènes, on en reparlera un petit peu après. Ensuite, des nanosomes. Donc les nanosomes, c'est ce que je vous ai présenté avec les tensioactifs à base de calendula. Ensuite, encore de l'oxyde de zinc nano-encapsulé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas un peu de... Alors ici, on a de la vitamine A qui a été micronisée. Alors il faut savoir que la vitamine A... Et surtout la vitamine C, à manipuler, c'est une grande difficulté puisque c'est complètement instable. La vitamine C, il va falloir la protéger contre finalement son brunissement. Et c'est vraiment un challenge. Raison d'ailleurs pour laquelle dans les jus de fruits, maintenant, ce n'est plus indiqué. Avant, ça se faisait, ils mettaient teneur garantie en vitamine. Teneur garantie en vitamine, de rien du tout, oui. C'est que teneur de rien du tout. Enfin, c'était vraiment... Enfin, tout le monde sait ça, quoi. Les vitamines se débobinent à toute vitesse, donc ce n'était pas possible, à moins de rajouter quelque chose. Je vais passer. Alors, ici, on a de nouveau une petite illustration de taille. Donc, vous avez des petites molécules comme les colorants qui sont situés entre 0,5 et 10 nanomètres. Tiens, d'ailleurs, en parlant de colorants, on doit parler des nanos, mais si on parlait des colorants, il y a beaucoup à dire sur les colorants. Ils sont pour ainsi dire presque tous CMR, si on gratte un peu. Les azoïques, par exemple aux États-Unis, sont déjà tous interdits. Haribo ne met plus d'azoïques pour le territoire américain, mais je crois qu'ils en mettent encore chez nous. Parce que c'est un puissant allergisant, et la pureté pour les obtenir, c'est extrêmement difficile à caractériser. Alors nous, on est autorisés aux colorants alimentaires, mais je ne sais pas encore pendant combien de temps. Alors, bon, là, on a une petite illustration. Et la question, c'est de savoir, est-ce que tout ce petit monde peut pénétrer? Je pense que pour les virus, tout le monde sait que les virus pénètrent. Et voyez, les virus, on est entre 20 et 400 nanomètres. Donc, il y a quand même quelque chose qui frappe l'esprit. Si un virus est en capacité de pénétrer, il n'a pas par lui-même un système qui lui permet de faire une effraction. C'est simplement au hasard d'une effraction qui va pouvoir s'insinuer. Donc ça, c'est typiquement papilloma virus. Vous êtes allé à la piscine, vous avez trempé dans des hypochlorites pendant un bon moment, la barrière cutanée s'en est trouvée altérée, vous êtes passé dans le pédiluve, puis le virus était présent, il est venu s'insinuer. Puis ensuite, verrue, puis ensuite, il va falloir traiter. Bien, alors d'ailleurs, c'est ce qui est montré ici. Vous voyez, là, vous avez, je crois, c'est un virus qui est montré, et on compare finalement la taille de ce virus avec une nanoparticule. Alors, tant sur la forme que sur sa taille, eh bien, il y a des analogies. Alors évidemment, il peut être un petit peu tentant de se dire, est-ce que je ne pourrais pas quand même utiliser quelque chose du virus pour construire ma nano? Ou au contraire, est-ce que je ne pourrais pas éliminer quelque chose de prolifératif dans mon virus pour insérer un actif et ensuite administrer? Profiter là encore de quelque chose qui existe pour l'utiliser. Alors, ici vous avez une représentation d'un réseau de nanocapsules qui renferme un antiseptique, en l'occurrence c'est de la chlorhexidine, et que nous avons, emprisonné dans un gel classique que vous achetez dans les stations-service, un gel à base de cellulose, ça ne coûte rien du tout. Et ensuite, on l'applique, là, c'était de la peau de porc, et vous voyez, ça fait une sorte de trame. Et ces nanos, elles sont chargées positivement, ce qui va leur permettre de venir s'absorber sur les bactéries dont la paroi est chargée négativement, et ensuite de faire diffuser la chlorhexidine et de les tuer pendant un temps prolongé. Alors l'intérêt de ça, c'est que les infirmières, quand elles rentrent faire un soin, elles se lavent avec une solution qui est hydroalcoolique ou à base de tensioactif. Elles vont faire ça tout le temps. Donc c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup d'irritation cutanée possible. Donc l'idée, c'était de développer un système de nano que l'on applique sur la peau et qui va permettre d'avoir une action antiseptique pendant près de 8 heures pour éviter la réitération des applications. Je vous rappelle, les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections que l'on attrape à l'hôpital, ont un coût pour la société énorme. Je pense que personne d'entre nous n'a envie d'arriver à l'hôpital plutôt en bonne santé au départ et de ressortir avec une infection à staph ou à streptocoque. Donc il est aussi normal d'essayer de proposer quelque chose, quand même un progrès qui peut être discuté, mais qui, à notre sens, constitue un progrès à la fois pour le personnel soignant et aussi pour les patients. Alors d'un autre côté, nous aussi on était intéressés, je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est dit mais là, vous êtes gentil monsieur Pirot, vous nous faites voir un système super plan, quoi. Vous nous faites voir quelque chose qui est comme ça à la surface de la peau, mais moi je veux savoir ce qui se passe à travers la peau. Et effectivement, on a eu la surprise, mais comme d'autres collègues, de voir que ces nanos, là elles sont fluorescentes, elles suivent tout le trajet du follicule pilosébacé et vont se retrouver jusqu'au fond du derme. Or là, le derme, on a une vascularisation. Si j'ai une vascularisation, il y a peut-être une possibilité d'avoir une dissémination de toutes ces nanos dans tout l'organisme. Donc c'est là où je reviens, détectabilité. Nous, on a montré, effectivement, il y a un passage. On n'élude pas la question, on dit effectivement, il y a un passage ici, mais après, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc là, c'était juste pour faire voir la désorption des nanos sur les bactéries. Alors, on va revenir aux nanos lipidiques qui sont vraiment dans le pipe. Et donc là, on a des nanocapsules lipidiques et à l'intérieur, j'ai un actif. Et puis, je veux savoir si, en appliquant ces nanos à la surface de la peau, j'ai une pénétration à l'intérieur des structures plus profondes. Alors ça, c'est les nanos classiques, solides, lipides, nanoparticules. On voit quand même que par rapport à une crème classique, j'ai un continuum de fluorescence plus en plus important, donc j'ai bien une pénétration qui est facilitée. Mais si je les bricole un peu, les nanos, donc ce sont des lipides, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très cohérent, et c'est surtout très cristallin. Là, par exemple, vous êtes un magnifique exemple de cristal. Vous êtes tous arrangés les uns derrière les autres. Et si moi je suis un composé exogène, si je veux me balader entre vous, ça va être extrêmement difficile pour moi de m'insinuer entre vous. En revanche, dans quelques minutes, on va tous sortir, vous allez tous vous disperser, moi je vais pouvoir venir au milieu de vous, personne ne va s'en rendre compte. Et donc c'est cette autre structure qui a été également privilégiée, c'est-à-dire que je vais désordonner mes lipides pour pouvoir inclure un actif. Et si je fais ça, en ajoutant un petit promoteur d'absorption qui est de l'acide oléique, je vais aller encore plus loin à l'intérieur de la structure. Donc vous voyez qu'en fin de compte, en modifiant un vecteur, j'arrive à avoir un devenir, c'est-à-dire ce qu'on appelle une biodisponibilité qui va être très modifiée. Donc on en reparlait tout à l'heure, j'étais avec mon chasseur-cueilleur, puisqu'il est adapté à la course, mais il ne met pas de chaussures. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, ne pas mettre de chaussures représente un énorme avantage. D'abord parce qu'on se muscle considérablement le pied, puisque plus personne ne se muscle le pied, mais le pied, ça se muscle, et on a finalement une détente qui est beaucoup plus favorable. Tous les grands champions savent ça. Et donc lui, il est venu courir pieds nus sur son riff et finalement, il y a eu une pénétration et une dissémination de ces nanos, de zirconium et de beryllium qui ont généré ce qu'on appelle une podoconiose. Ce n'est pas à retenir, peut-être juste la photo. Alors il y a un autre système qui a été décrit, donc qui est vraiment un pur produit de la chimie. Il faut avouer que c'est quand même magnifique, hein, une structure carbonée comme ça, qui va permettre de faire de longs fils. On va pouvoir vraiment avoir l'image qu'on veut. Vraisemblablement, on va pouvoir avoir des imprimantes 3D qui vont arriver à nous faire des nanos comme ça. Donc évidemment, l'idée, quand on a ce type de vecteur, moi j'en veux, hein, j'en veux du vecteur parce que je veux mettre des choses dedans, moi. Je veux mettre de la vitamine A, je veux mettre de la vitamine C, je veux protéger. Alors évidemment, un carbone, a priori, ça va rester un bon moment dans l'organisme, et à éliminer, ça va être très très compliqué. Donc il y avait un magnifique article dans Nano Letters dans cet exemple, avec notamment l'importance de la flexion. C'est-à-dire la flexion, c'est-à-dire je vais masser ma peau et observer si ce massage a une influence dans la progression de ces structures. Et on observe vraiment très clairement, là ici on a une petite fluorescence qui est due au background de la peau, mais lorsque l'on masse cette peau, eh bien, on a vraiment une progression considérable de ces structures fluorescentes. Là ici on distingue très bien l'épiderme, mais là on est déjà dans le derme. Donc effectivement, ce n'est pas tant le composé qui est pénétrant, mais c'est finalement ce qu'on fait subir à l'organe qui est une condition de pénétration plus importante. Donc ici, vraiment, c'est très clair. Et comme les tailles sont toutes petites, alors 3 nanomètres, hein, pour les biologistes, ça leur parle tout de suite, 3 nanomètres, c'est la taille de l'albumine. Hein, grosso modo, l'albumine humaine, hein, parce que l'albumine murine est un peu différente. Donc vous voyez, on est vraiment au niveau de l'albumine, on est au niveau d'une protéine. C'est quand même tout à fait remarquable d'arriver à faire un objet aussi petit et que l'on puisse utiliser. Alors vous rendez-vous bien compte que l'albumine humaine, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est hors de prix l'albumine humaine. Ça, ce type de produit, ce n'est pas cher. Donc évidemment, tout le monde, là aussi, il y a un coût économique. Alors là, vous avez quelque chose qui est vraiment tout à fait remarquable, ce sont les quantum dots. Donc les quantum dots, vous avez un système, on va dire, je ne sais pas si c'est vraiment le mot en physique, moi je vais appeler ça un alliage de cadmium et de sélénium, ou de cadmium et de telluride. Ici, là, donc là on a un corps, et puis autour, j'ai une coquille de sulfure de zinc. Tout ça, c'est très insoluble. Et puis, je vais réaliser un coating autour pour augmenter la dispersion dans l'eau avec un certain nombre de groupements, et c'est ça qui est intéressant, de groupements carboxyle avec une charge CO au moins qui va me permettre de conjuguer éventuellement un médicament ou un actif cosmétique. Là, je suis aux alentours de 20 à 30 nanomètres. Je peux faire modifier ma taille, comme on a vu tout à l'heure dans les fioles. Je vais faire modifier, je vais ajouter plus ou moins d'atomes de cadmium et de telluride, et je vais obtenir différentes couleurs, différentes fluorescences avec la même longueur d'onde d'excitation. Alors, la grande différence, vous allez me dire, mais ça, c'est très connu avec les colorants fluorescents. Oui, mais le gros avantage du quantum dot, c'est que dans une molécule qui est fluorescente, entre la longueur d'onde d'excitation et la longueur d'onde d'émission, le nombre de nanomètres est extrêmement court, en fait, la bande est courte. Alors qu'avec les quantum dots, en fait, ils vont fluorescer avec des longueurs d'onde qui sont très étalées. La longueur d'onde d'excitation est très large, et la longueur d'onde d'émission est finalement... la bande de Schlitz est plus importante. Alors ici, il y a eu une manip qui a été faite. On a injecté, on a déposé localement différents quantum dots, et puis on a illuminé l'animal, et on observe vraiment les spots de ces quantum dots. Je crois que c'est peut-être au niveau sous-cutané. Mais on aurait pu réaliser exactement la même manip en les injectant, et c'est ça qui est intéressant. C'est que ces quantum dots deviennent d'un seul coup traceurs. C'est-à-dire qu'on les injecte et on va regarder dans quel organe elles vont venir s'insinuer. Donc ça devient vraiment, un des systèmes les plus intéressants pour objectiver le journée, donc le travel, le voyage d'une nano au sein de l'organisme. Donc c'est un petit peu, c'est intéressant. C'est vraiment, je dirais d'une certaine manière, la première technique vraiment visuelle permettant d'apprécier au moins le cheminement d'une nanoparticule dans l'organisme. Alors, si on utilise, ça peut être toujours intéressant de voir quels peuvent être les effets, par exemple, d'une irradiation ultraviolette au niveau de la peau, et de voir est-ce que, bon, vous me dites les nanos, quand je les applique sur une peau humaine normale, et que je suis dans un environnement clos, apparemment il n'y a pas trop de passage, mais moi je vais prendre le soleil tout à l'heure, on me propose d'utiliser un produit solaire contenant du dioxyde de titane, je vais prendre des UV, est-ce que ces UV n'ont pas une influence finalement sur la fonction barrière cutanée, est-ce que je n'ai pas un risque supplémentaire? Eh bien, effectivement, là vous avez des quantum dots qui sont fixés, disons déposés à la surface de la peau, pendant près de 8 heures. Là, ici, vous avez la couche cornée, puis ensuite l'épiderme vivant, ici, on a le derme. Après 24 heures, on essaye d'objectiver le passage. C'est plutôt discret, sauf, là encore, au niveau du follicule pilosébacé, où il semble qu'effectivement, on ait un passage facilité sous l'effet des UV. Alors, vous voyez qu'il est quand même tout à fait remarquable, c'est que chacun des spots ici correspond à un des quantum dots, ou au moins un agglomérat de quantum dots. Donc on voit bien que lorsque l'on applique ces quantum dots à la surface de la peau, eh bien on arrive à en détecter la présence, que ce soit dans le contrôle ou lorsque l'on a irradié la peau par des UV. Donc là on voit ici des traces plus profondes. Alors de tout ça, on retire... Si on voulait faire un principe de précaution, on pourrait peut-être dire, eh bien, moi je considère que sur une peau intacte, non soumise à un stress exogène, il ne semble pas qu'il y ait un passage manifeste en dehors de la couche cornée. En revanche, il semble bien que si il y a, disons, un massage de la peau ou s'il y a une exposition à d'autres stimuli, UV ou autre, eh bien, et qu'il y ait un risque de passage dans les structures vivantes de la peau, et non pas dans la couche cornée. Alors, il y a eu un rapport d'Anoderme il y a quelques années, et dans ce rapport, on s'intéressait notamment au devenir des nanoparticules de dioxyde de titane. Donc, dioxyde de titane a une tendance naturelle à se présenter, à s'agglomérer. Ici, vous avez de magnifiques aiguilles, mais la plupart du temps, voilà ce que l'on observe, c'est-à-dire des agglomérats de nanoparticules de dioxyde de titane. Et lorsque c'est aggloméré de cette manière, l'effet anti-UV est bien moindre. Donc l'astuce, c'est d'arriver à rester plutôt sous cette structure, disons, en aiguille. Donc dans cette étude, eh ben, il était montré là encore clairement qu'il y avait bien un passage le long des follicules pilosébacés de ces structures de dioxyde de titane sous forme de nanos. Alors bon, évidemment, des nanos, vous en avez absolument partout. Le mécanisme en lui-même anti-UV, il est dû finalement à une réflexion de la lumière des UV sur les nanos. Les nanos ont une taille, on l'a dit déjà, aux alentours de 20 nanomètres, mais je peux d'une certaine manière monter encore un petit peu leur taille et me rapprocher de la taille des UV. Je vais avoir une réflexion qui est pratiquement complète. Alors, évidemment, l'astuce, c'est, puisqu'il y a un débat sur le dioxyde de titane, c'est de réduire la dose ou la concentration de dioxyde de titane dans ma préparation et d'augmenter les effets anti-UV. Donc là encore, il y a un bricolage moléculaire qui peut être fait autour de dioxyde de titane. Bon, nous, on a réussi à faire deux, trois choses là-dessus. Donc là, c'est ce que Elodie a réussi à faire, c'est-à-dire avec différentes structures, nanoparticules lipidiques, solides, nanocapsules lipidiques, etc., à finalement augmenter l'effet anti-UV. Je suis un peu en retard. Je ne sais plus très bien. J'ai encore 5 minutes. Finalement, à augmenter le facteur de protection solaire multiplié par 4 avec la même dose de dioxyde de titane utilisée. Donc voilà, ici, c'est classiquement les tests qui sont faits, comme ils sont faits dans la plupart des prestataires cosmétiques, à savoir, on vous applique votre préparation, à base de dioxyde de titane. Puis ensuite, on va irradier votre peau avec des UV et puis on va objectiver l'apparition d'un érythème solaire. Donc évidemment, l'astuce étant d'avoir l'indice de protection solaire le plus élevé. Ça, en fait, ça correspond, par exemple, quand on vous dit un indice 30, vous voyez à quoi ça correspond ? C'est-à-dire, il vous faut, c'est le temps pour objectiver un érythème et multiplier par 30 en dehors de toute protection. Voilà, alors je vais... Je reviens sur la notion de lésion, en fait, au niveau de la peau. Si la peau est lésée, si on a fait une effraction, et l'effraction peut être finalement assez... ça peut pratiquement être presque un morceau de scotch que j'applique de manière répétée à la surface de la peau pour éliminer la couche cornée. Eh bien, lorsqu'il y a cette peau lésée, ou si j'ai affaire à une peau brûlée, eh bien, il va y avoir, bien évidemment, et de manière presque logique, une pénétration de ces nanoparticules au sein des structures profondes de la peau. Alors, ça a été... ici, il y a une manip qui a été faite avec un tape strip, c'est-à-dire qu'on va arracher la couche cornée avec un adhésif. Là, on est vraiment au niveau du stratum cornéum, et puis on plonge un petit peu en profondeur, granulosum, spinosum et la couche basale. La couche basale, qui est un des sites, disons, classiques de carcinome basocellulaire ici, qui est une cause des cancers les plus courantes chez l'individu aux alentours de 60 ans. Donc là, on observe très bien que si j'altère la couche cornée, eh bien, je vais pouvoir finalement avoir un passage de ces nanoparticules d'argent eh bien, jusqu'au niveau de la couche basale. Voilà, écoutez, j'ai terminé cette présentation. Je ne saurais trop quoi dire sur la dangerosité des nanos pour ce qui est de l'application dermatologique. Je pense qu'il y a des éléments de preuve, du moins pour ce qui est de la pénétration. C'est-à-dire qu'on peut arriver maintenant à objectiver un certain nombre de pénétrations dans des cas bien spécifiques. Mais pour ce qui est de la répercussion biologique de ces nanos au sein de la structure cutanée ou de leur devenir dans l'organisme, eh bien, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Voilà.
Merci.
Merci.
Merci, Monsieur Pirou. Il va quand même y avoir des questions, parce qu'il y aura des réponses.
À table, non ?
Non, moi je voulais vous demander dans quelles cosmétiques, dans les cosmétiques il y a beaucoup de nanos, dans les rouges à lèvres, les crèmes, donc quelles sont les cosmétiques les plus importantes, enfin les plus utilisées qui pourraient être susceptibles de
ce sont les crèmes solaires. Pour ce qui est des rouges à lèvres, il peut en avoir également dans les... Ça peut paraître un peu paradoxal, mais il peut y en avoir dans le conditionnement des cosmétiques. Et on peut retrouver du dioxyde de titane dans le conditionnement, car il a un effet anti-grisonnant, en fait. Avoir un polymère de couleur blanche, il peut avoir tendance, si on le laisse traîner en rayon, à devenir gris. D'ailleurs, il y avait un petit laboratoire qui avait commercialisé un magnifique conditionnement, ça représentait un iceberg. Il n'était pas mis en carton, il était déposé comme ça dans les parfumeries. Et au bout de quelques jours, on passait d'une couleur blanche à une couleur grise. Donc l'idée de mettre du dioxyde de titane à l'intérieur réduit, disons, ça aurait été une photocatalyse. Pour ce qui est du rouge à lèvres, bon, c'est une base assez classique, cireuse, avec de silicone. En fait, en revanche... Pour le rouge à lèvres, ce qui donne le côté très rouge, très persistant et très voyant, c'est le fait de disperser à l'état de nanoparticules un pigment rouge. Si je prends un pigment rouge, mais que je le triture comme ça au mortier pilon, je vais avoir une couleur rouge, mais une fois appliqué sur les lèvres, ça ne va pas avoir un joli rendu. En revanche, si je commence à réduire sa taille, je vais avoir un effet de réflexion de la lumière extrêmement important. Mais là, il y a un coût à porter. Le coût, il n'est pas que, que sur l'esprit de la marque, mais de réduire, comme je disais tout à l'heure, à l'état submicrométrique un pigment, ça coûte très cher. Parce qu'il faut des technologies qui sont très coûteuses, des appareils qui sont très coûteux.
Et cette dispersion, elle est obligée de se faire en marteau-pilon, elle ne peut pas se faire en solution liquide ?
Si, bien sûr. Oui, on peut bien faire, on peut faire en milieu liquide, mais là, avec les technologies, disons, de base, d'ailleurs, c'est assez curieux, on peut finalement assez facilement arriver à 200 nanomètres. C'est-à-dire, je vais prendre un pigment, ou je vais prendre une huile, je vais prendre une eau, à l'ultra-thurax, ou avec un homogénéiseur haute pression, j'arrive à 200 nanomètres. Mais il semble qu'il y ait une sorte de barrière à 200, et pour tomber en dessous des 200, il va falloir utiliser vraiment une technologie qui est beaucoup plus, comme je vous disais, onéreuse et qui fait appel à une énergie qui est beaucoup plus importante. Donc, par exemple, on s'est équipé avec une sonde ultrasonore qui existe maintenant dans l'industrie. Donc là, on envoie une énergie qui est considérable pour pouvoir fractionner la poudre. Mais il y a un coût à payer là-dessus, c'est qu'envoyer tant d'énergie dans un milieu liquide, ça chauffe. Et la plupart des molécules actives, on va dire actives, même en cosmétique, elles sont fragiles à la chaleur. Donc il faut tout mettre à froid. Et mettre à froid, s'il faut envisager un refroidissement à l'ammoniac, ça va coûter un bras, quoi. Et donc c'est toujours la difficulté, hein, quand on est chercheur, bah, c'est pareil pour les thésards. Vous faites une manip, la manip elle marche sur le bench, hein, elle marche au labo, elle marche avec l'étudiant qui est en master, qui est avec vous, vous la faites voir au chef. Et puis le chef, il vient vous voir et il vous dit « Ouais, c'est vachement bien ton truc, hein. Mais je vais le vendre comment, moi ?» T'as vu le nombre d'intermédiaires que tu me mets dessus ? On ne va jamais pouvoir avoir une dimension industrielle. Parce que ce que cherche l'industriel, c'est quelque chose de simple. Et donc, il faut rester simple. Si vous mettez trop d'intermédiaires, si ce n'est pas extrapolé sur un lot pilote, jamais votre truc il va se vendre. Mais je ne dis pas que ça n'a pas un intérêt. Mais je dis l'intérêt restera au labo. Si c'est vraiment dans la recherche fondamentale, c'est bien entendu, c'est un intérêt. Mais je veux dire, la première chose qu'on vous demande, c'est est-ce que le scale-up, il est possible ou pas ? Est-ce que si je fais un test pour mettre en évidence mes PSA, pour diagnostiquer ma prostate, est-ce que la manip que tu fais au labo, je peux la mettre dans un kit ? Est-ce que le kit, il est stable à température ambiante dans une officine ou pas? Si vous êtes capable de répondre à oui tout de suite, il sort la déclaration d'invention, le chef. Hein. C'est en disant, c'est bongo, mais si j'ai pas... quand vous faites les brevets, hein, quand on reçoit le rapport des brevets, hein, il y a trois critères. Hein. C'est nouveauté, inventivité, développement industriel possible. Trois critères. On n'est pas obligé de répondre aux trois, mais...
Oui, par rapport à ce que vous disiez sur les traceurs, les différentes utilisations, est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de doser, de quantifier, d'identifier dans les organismes et dans l'environnement tous ces différents nanomatériaux ?
Alors, il y a des méthodes qui sont, extrêmement sensibles. On arrive pratiquement à la picomole et autres, mais ça reste malgré tout très délicat à faire. On a du mal parce qu'il faut extraire des trames biologiques et puis surtout il faut mettre on veut bien mettre en évidence ce que l'on cherche, c'est-à-dire que cherchez-vous. Si c'est vraiment de faire une analyse par exemple de tous les métaux ou des solvants résiduels, un, ça coûte très cher, il existe des méthodes mais elles ne sont pas nécessairement suffisamment sensibles. Il se peut très bien que même des traces, hein, de nanoparticules suffisent finalement à produire à long terme sur un organite particulier des dommages qui sont considérables. Je ne suis pas sûr que en fait, la notion finalement de dose soit appropriée dans ce domaine-là. C'est ça toute la difficulté. Si vous voulez, quand vous prenez un gramme de paracétamol, c'est tellement à la louche, vous en prenez un gramme, deux. D'ailleurs, pourquoi les comprimés sont 1 gramme, quoi ? Pourquoi ils ne sont pas 800 ? Oui. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le même champ. Il est possible que comme on a des propriétés physiques qui sont très particulières, eh bien, on ait finalement des désordres biologiques qui le soient également, mais qu'on n'arrive pas encore à mettre en évidence. Il est tout à fait étonnant que lorsque l'on fait Par exemple, une nano, elle passe au voisinage d'une cellule, sans y rentrer. Hein. Eh bien, on a deux dommages à l'intérieur de l'ADN, alors qu'elle n'y a pas pénétré. Et ça, ça a été montré. Alors, vous voyez, il y a quand même un truc qui est quand même qui frappe l'esprit, quoi. Je veux dire, le simple fait de voisiner au niveau de la membrane plasmique, sans qu'elle soit, il y a une endocytose, suffit à altérer le fonctionnement du noyau. Donc là.
J'ai cru comprendre qu'il y avait un étiquetage obligatoire pour ce qui concerne les cosmétiques, mais oui. Avec une loupe pour pouvoir acheter des crèmes, puisque comme pour tous les autres adjuvants, on ne peut pas les lire.
Non, on ne peut pas les lire, mais on ne peut plus les lire. Mais, c'est au législateur de faire, ce pourquoi il a été élu. Hein.
Qu'est-ce que ça apporte au public de savoir qu'il y a des nanoparticules dans une... Qu'est-ce que ça lui apporte s'il n'est pas informé avant des...
Ah bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais...
C'est le principe de précaution.
Sans doute.
Oui.
C'est pour éviter, évidemment, de s'entendre dire après qu'on n'a plus été ministre, qu'on a été responsable d'un problème de santé publique. Hein. Vraisemblablement. Alors, vous savez, ce n'est pas l'école du courage, hein, ni la NSM, ce n'est pas l'école du courage. Hein. C'est, ils ouvrent le parapluie, hein. C'est, et après, quand vous les appelez pour leur dire, mais nous, on a une problématique avec un patient, on souhaite utiliser ce type de médicament qui n'est pas dans l'indication et qu'on va le formuler, ils vous disent, mais nous, on n'est pas une agence de renseignement. Vous leur dites, bah, écoutez, vous irez expliquer ça au patient qui est dans sa chambre et qui attend le traitement. Quand, par exemple, vous avez vous prenez une patiente qui a une greffe du rein. Elle est sous immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'elle va avoir des tumeurs cutanées, voire même des condylomes généralisés. Que ces condylomes, ils sont résistants à la plupart des antiviraux connus. Mais il y en a un, dans lequel on a montré in vitro, qui est très actif. Mais il n'est pas dans cette indication-là. Vous faites donc un dossier que vous envoyez à la NSM, et vous dites, moi je veux pouvoir, il me va me falloir 15 minutes, moi, pour faire la préparation et pour la donner au personnel de soins, au médecin pour le traitement. 15 minutes, moi, il me faut. Ils me disent, mais non, vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce qu'il n'est pas dans l'indication. Donc, ils sont très reluctants parce qu'ils n'ont pas envie de s'entendre dire qu'il y a eu éventuellement des effets secondaires. Ou alors, si la chose qu'ils nous disent, c'est que vous en supportez la responsabilité, 50 pour le clinicien, 50 pour vous. Voilà, je pense que c'est de toute manière ces gens-là sont assez mal inspirés pour nous donner le son de morale vu le nombre de scandales qu'ils ont subis ces dernières années et c'est pas prêt de s'arrêter. Hein.
Monsieur Dorido. J'ai une petite question sur les. Parce qu'au final vous êtes resté très prudent sur le dioxyde de titane hein, en disant qu'on manquait de connaissances. Est-ce que quand même au regard de ce que vous en savez, enfin, où penche votre point de vue? Bon, je sais qu'il est classé cancérogène par inhalation, notamment.
Oui.
En termes d'alimentation, il y a des controverses, mais ce que j'entends dire, c'est qu'on en fait peut-être un peu trop sur le sujet. Sur le plan cutané, où est-ce que vous situez? Parce qu'en même temps, on dit qu'il y a des effets bénéfiques à la pénétration. Ça garantit quand même une efficacité des crèmes aussi. Je pense en Australie, il y a tout un tas de choses.
Nous, quand on parle de pénétration, on dit vraiment c'est le cheminement d'une molécule au sein de l'épiderme vivant. Lorsqu'il rentre dans la couche cornée, ce qui est d'ailleurs la définition pratiquement du cosmétique, hein, puisqu'il doit rester dans l'épiderme, et pas vraiment dans l'épiderme vivant. Donc là, il n'y a pas vraiment pénétration, c'est plus une adsorption, finalement, ou disons une pénétration, mais... peu profond dans les 20 micromètres de la couche cornée. 20 micromètres, c'est l'épaisseur d'un sac poubelle, pour donner à peu près une idée. Il faut que ça reste à l'intérieur. Là encore, vous avez bien vu, hein, en Australie, ils ont les normes sur les produits cosmétiques, et notamment les produits anti-UV, les plus drastiques au monde. C'est la norme Colipa à côté, en Europe, c'est rien du tout. Hein. C'est la norme la plus drastique. Et eux, ils ont exigé que leurs enfants aillent à l'école badigeonnés de crème. Il était hors de question, vu le nombre de mélanomes et de spinaux et cellulaires et basocellulaires qui sont élicités pour une population qui était autrefois caucasienne et qui est venue, il n'était pas question de ne pas les protéger. Donc là, encore. Bah, on verra bien l'expérience australienne, mais je trouve que là, me semble-t-il, puisque c'est quand même un problème de santé publique, hein, le mélanome, hein, que dans l'esprit, surtout pour le visage, il y a, je pense qu'il y a, il y a un gros intérêt à appliquer plutôt que de ne pas appliquer. Parce que là, le visage, vous ne pouvez quand même pas vous mettre, hein, vous n'allez quand même pas venir avec un masque, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas une zone que l'on peut protéger facilement autre qu'avec un produit topique. Je comprends bien la problématique de couvrir finalement le corps sur une plage, peut-être mettre finalement un t-shirt suffisamment, qui est suffisamment avec cette fois-ci du dioxyde de titane, mais pour renvoyer les UV. Mais sur les mains, par exemple, on va quand même pas porter des gants, quoi. Quand même placer un certain nombre de produits. Après, moi, je veux bien qu'il y ait un danger, mais là encore, c'est monsieur, que proposez-vous ? Vous voyez, c'est ça qu'il faut demander. C'est très bien, d'accord, ok, on ne met pas de dioxyde de titane. Quelle option technologique vous proposez ? C'est quoi l'option ? Parce qu'à Grenoble, ils me font rire, ils ont un nombre d'UV qui est considérable, les radiations UV avec un vraisemblablement une humidité qui est importante, tout est favorable à des dommages. C'est bien beau de s'opposer, mais proposer quelque chose. Vous savez que les mélanomes, hein, c'est la deuxième cause de mortalité dans votre génération. Hein. Première cause étant le suicide. Oh, bah, c'est clair, hein. Mais ils ont l'air très bien. Oui, ils ont l'air très bien.
Bon, vous avez toujours faim, j'espère. Vous avez toujours faim. Merci beaucoup, Fabrice.
Comme merci, 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 à vous. Merci. Au revoir.
On reprend à 14h, on ferme la salle. Bon appétit.